Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Si tu te lances sur les réseaux en mettant en avant que ton activité, peut-être que tu vas prendre que 1000-2000 abonnés, mais ça va être 1000-2000 abonnés très important et que tu vas pouvoir convertir si tu veux vendre quelque chose ou mettre quelque chose en avant.
Les entrepreneurs sont aujourd'hui devenus de plus en plus des créateurs. Ouais. Et de plus en plus, en fait, les gens sont d'abord des entrepreneurs et ils comprennent l'intérêt de devenir des créateurs.
On a des clients qui viennent, non pas parce que le budget est moins cher ou plus cher, mais parce qu'en fait, je véhicule à travers toute l'équipe un message qui est humain.
Je vois des créateurs de contenu qui émergent, qui font des millions de vues, parce que justement, il y a ce côté humain, ils font des erreurs, mais on sait pourquoi ils les font et ils sont beaucoup plus attachants.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver dans le podcast des indépendants, saison 3, épisode 12, déjà sur BFM Business. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison et aujourd'hui, on va parler de la créateur économie ou plutôt des créateurs entrepreneurs. Alors, ça vous semble peut-être un sujet un peu éloigné. Pour mes invités, c'est une révolution qui concerne tous les indépendants de deux manières différentes. Ceux qui vivent de leur contenu et ceux qui utilisent leur contenu pour faire vivre leur activité.
Marc Lesage-Moretti, mieux connu sous le nom de Jocariz, créateur et entrepreneur très suivi sur YouTube. Jocariz a cofondé la Paris Creator Week, le plus grand rassemblement de la créateur économie en France. Deuxième invité, Virgile Dutilleul. Entrepreneur depuis ses 16 ans, Virgile a créé sa marque de mode Menos. C'est en créant du contenu sur Instagram qu'il réussit à vendre ses vêtements à ses plus de 600 000 abonnés. Troisième invité, Valran Moulet-Berthaud. Entrepreneur dans les médias et chroniqueur télé, il dirige le Crayon Group, un groupe média qui cumule plus de 5 millions d'abonnés. Parmi ces médias, le Crayon et les Pépites de France. Quatrième invité, Déborah Daunier. Entrepreneur depuis ses 16 ans, Déborah dirige notamment une agence de production de podcasts vidéo pour entrepreneurs, Podpreneur.
Bonjour à tous.
Bonjour Ludo.
Bonjour Ludo.
Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir et je voulais commencer cette émission, Virgile, par un cas très concret, très pratique, parce que c'est vrai, je l'ai dit en introduction, on peut se dire c'est un peu éloigné finalement la créateur économie de la réalité des indépendants qui nous écoutent, alors que pas du tout. Et t'en es l'exemple, puisque t'as créé une marque de vêtements, une marque de mode, et cette marque de mode, tu la portes en créant véritablement du contenu sur Instagram, où t'as, et pas que sur Instagram d'ailleurs, tu l'as dit, t'as à peu près 600 000 abonnés. Hein.
Ouais, j'ai 600 000 abonnés cumulés, je poste mes réels, mes TikTok et mes shorts YouTube.
Et c'est ça qui te permet vraiment de trouver tes clients, c'est de créer du contenu. Donc, il n'y a rien d'éloigné finalement de la réalité de l'entrepreneur. C'est plus l'influenceur ou la star de télé-réalité qui fait du contenu.
Exact. En fait, moi, je compare ça un peu à mon bac. En gros, les réseaux, c'est un peu comme si c'était ma carte principale. Et avec ça, après, bah, je peux permettre de me propulser mon business, ma marque de vêtements. Et c'est ça qui est trop cool avec les réseaux. Déjà, je kiffe faire des vidéos depuis que je suis tout petit. Et de plus, après, j'adore l'entrepreneuriat, donc mettre en avant mon activité avec les réseaux, c'est trop bien.
Et des idées, t'en as tout le temps. Tu dis en fait, ce que tu fais, tu publies combien de vidéos par mois?
Bah, je publie 3 vidéos par semaine. Enfin, c'est l'objectif que je me donne.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Ouais, c'est pas mal. Vraiment, mon défaut, c'est qu'il y a des moments où j'arrive pas à poster de vidéos pendant 2-3 mois. Je suis à court d'idées.
C'est vrai que le plus compliqué dans le contenu, et on en parlera durant l'émission, c'est quand même de tenir le rythme.
À mon âge, en fait, à 17 ans, c'est compliqué de tenir régulièrement le fait de poster 2 à 3 vidéos par semaine. Par exemple, j'avais essayé de me lancer un défi du sport, faire pendant 1 an aller à la salle Basic Fit et je l'ai pas tenu, tu vois. J'essaye quand même de m'accrocher parce que si je peux faire ça aujourd'hui, c'est déjà trop cool et il y a une communauté qui me suit et je suis quand même obligé de tenir 2-3 vidéos par semaine pour pouvoir alimenter mes réseaux sociaux.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que c'est pas que du contenu autour de ton activité, quoi. C'est vraiment faire du contenu pour donner de la visibilité à toi-même pour ensuite porter ton entreprise.
C'est ça, exactement. Quand j'étais petit, je postais des vidéos pour m'amuser, pour le kiff. À côté de ça, j'avais un peu l'esprit business. Je voulais être plus âgé que mon âge. Je voyais les petits de 12-13 ans au collège qui étaient là à travailler sur les cours. Et moi, vraiment, les cours, je me disais, je veux pas faire ça. Je prends mon bac pour rendre fière ma mère. Et après, je me focus business, entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai alimenté passion des réseaux sociaux avec le business. Et ça a trop bien marché vu que j'avais une tête de bébé. En plus de ça, j'avais 16 ans. Donc les gens, ils ont kiffé, ils m'ont suivi, ils ont commencé un peu à faire pareil, quoi.
Donc créateur, entrepreneur, et le mot est super important. Et Jocariz, ça montre aussi que, et tu me l'as dit quand on préparait cette émission, tu dis, ce qui est important, c'est quand même de souligner qu'on est loin de l'influenceur qu'on imagine ou la personne de télé-réalité, quoi. Là, on a un entrepreneur.
Ouais, exactement. Je pense que les gens ont encore du mal à séparer d'un côté les influenceurs qui ont hérité d'une notoriété grâce à une émission de télé-réalité qu'ils ont faite, par rapport à des créateurs de contenu qui se sont construits tout seuls, qui ont fait leur contenu, qui ont construit une communauté, qui ont fédéré une communauté autour d'eux et qui méritent complètement, à mon humble avis, la notoriété qu'ils ont, quoi.
Et on parle d'un phénomène, puisque les chiffres que tu m'as donnés, c'est 300 000 créateurs en France, 1,5 million d'emplois concernés. Donc c'est assez massif en fait. Hein.
C'est énorme. Pour que les gens se rendent compte, alors ces chiffres, ils ont été révélés par Coherent Market Insights à l'occasion de notre événement sur la Paris Creator Week. C'était la première fois en fait qu'on avait vraiment l'impact macroéconomique de la créateur économie en France. 1 500 000 emplois indirects, pour que les gens se rendent compte, on est un peu moins de 30 millions d'actifs en France. Donc ça fait une personne sur 20 qui travaille indirectement dans la créateur économie. Et là-dedans, tu prends tout en compte, c'est-à-dire les producteurs de hardware, des caméras, des micros, tout ça, des lumières, les producteurs de software, il faut plein de software
pour faire des montages vidéo. Incroyable.
Exactement. Même les services juridiques autour de la propriété intellectuelle, les agences, les plateformes, c'est énorme comme écosystème. Ouais.
Et les agences Valorant du coup.
Ouais,
et
justement, moi, je voulais rebondir à ce que disait aussi Virgile sur le côté les entrepreneurs sont aujourd'hui devenus beaucoup, de plus en plus des créateurs. Ouais. Et de plus en plus, en fait, les gens sont d'abord des entrepreneurs et ils comprennent l'intérêt de devenir des créateurs. Nous, on a une agence qui s'appelle Le Surligneur qui accompagne les gens sur la création de contenu et les relations presse. Et on sent bien que c'est un énorme besoin de l'époque parce que c'est ce qui crée de la singularité littéralement. C'est ce qui va permettre, on va se dire, entre différents business concurrents, de pouvoir réussir à gagner des parts de marché, à gagner de la visibilité, parce qu'on va utiliser le contenu, LinkedIn, Insta, TikTok, YouTube, pour réussir à se différencier, à se faire connaître et à valoriser son expertise. C'est vraiment une forme de révolution un peu de la publicité, des petites boîtes de, on va dire, un salarié, enfin un entrepreneur salarié, jusqu'à 100, 200, 1000 ou 2000 personnes. En
ouais,
fait.
Avant on achetait de la publicité sur Google, on achetait des clics. Aujourd'hui, finalement, ce qu'il faut, c'est être visible.
Exactement.
Mais du coup, arrêtez-moi si je me trompe, il y a deux types finalement de créateurs. Il y a le créateur qui va se rémunérer grâce à du sponsoring, il y a le créateur qui va le faire pour porter son activité sur LinkedIn typiquement.
Moi, je suis pas très d'accord avec cette distinction-là, parce qu'en fait, pour moi, en gros, il va y avoir en fait surtout deux points d'entrée. Il y a le point d'entrée de je mène une activité et il faut que je réussisse à mettre de la visibilité dessus, donc en fait je vais créer du contenu pour mettre de la visibilité dessus, et il y a je crée du contenu de base et après je peux me rémunérer soit en faisant des sponsoring, ce qui est le modèle un peu traditionnel, soit en créant mes propres services ou produits destinés à l'audience que j'ai créé en organique à la base, sans avoir de stratégie préalable. Pour moi, la distinction, elle se fait plutôt sur le point d'entrée que sur la nature de l'activité.
Déborah, toi, tu fais partie de ces entrepreneurs qui accordent une grande importance au contenu. Tu as quand même près de 60 000 abonnés sur YouTube.
Exactement.
Et tu fais des contenus, mais récurrents, donc des entretiens avec des entrepreneurs de manière hyper régulière.
C'est vrai que mes publications à moi, c'est plus le podcast format long. D'ailleurs, c'est un vrai sujet parce qu'on en revient, on était parti. Il y a eu la tendance des contenus courts, notamment avec le post-Covid et les réseaux sociaux en format vertical. Donc moi, c'est vraiment un format long, mais je ne me suis pas lancée en me disant « je vais devenir influenceuse, créatrice de contenu ». Pour retourner en arrière, pour les plus jeunes générations, c'était en 2009. Donc en 2009, il y avait le début de YouTube, il y avait le début de Facebook qui arrivait en 2008 précisément en France. Donc forcément, on n'était pas habitué à utiliser les réseaux sociaux comme un canal de publicité, en fait, pour justement aller vendre des services ou se promotionner. Quand j'ai des clients qui viennent maintenant, il y a un discours qui a complètement changé. Ils ne veulent plus être des youtubeurs parce qu'ils font des vidéos, ils créent une chaîne YouTube, mais ils créent justement un positionnement de marque, de personal branding, etc. pour leur visibilité. Ou ils se disent, bah en fait, moi je veux être trouvé par mes clients, ça peut être des avocats, ça peut être des experts comptables, qui se disent, bah non, je veux être présent parce que c'est une possibilité, c'est une chance pour moi de capter le public ou en tout cas mes prochains prospects.
Là où moi je trouve qu'elle a un point super intéressant, Déborah, c'est que les gens ne se rendent pas compte, si on prend un peu de théorie des réseaux sociaux, que en fait on a basculé de réseaux sociaux à médias sociaux. Et la différence, elle est extrêmement simple. Un réseau social, c'est là où on est pour animer des gens qu'on connaît. Donc c'était un peu le Facebook de départ, c'était ce que voulait être Instagram aussi.
C'est le groupe WhatsApp, quoi.
Exactement. Il y a eu une bascule dans les années 2015-2018 où en fait c'est devenu des médias sociaux, c'est-à-dire en fait des plateformes de contenu, plutôt basées sur le modèle que YouTube a toujours eu. Et c'est là où on a eu en fait l'émergence de Instagram et des influenceurs Instagram. Aujourd'hui, le dernier réseau social qui reste d'abord comme narratif, c'est LinkedIn, qui est d'abord là pour créer des connexions avec des gens qu'on connaît, cercle 1, cercle 2, cercle 3.
Jogaris, dans une des vidéos sur YouTube que j'écoutais hier, t'explique qu'il faut absolument s'intéresser au sujet, que c'est fondamental surtout quand on entreprend.
Ouais, complètement. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je fais pas de distinction, tu vois, entre les créateurs de contenu d'un côté et les entrepreneurs de l'autre. Tu vois, si je définis...
J'ai appelé l'émission créateur-entrepreneur.
Les créateurs sont des entrepreneurs. La définition de la créateur économie, c'est un nouveau genre d'entrepreneurs qui utilisent les médias, cette possibilité d'avoir son propre média et qui le mettent au cœur de leur stratégie pour distribuer leur contenu et promouvoir leurs services. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Donc c'est un nouveau genre d'entrepreneurs, des entrepreneurs 2.0, tu vois. Et tous les entrepreneurs devrait s'intéresser à cette opportunité. C'est ce que certains ont appelé dans les années 2010 le sans permission. C'est aujourd'hui, je peux créer mon propre média, je peux me faire connaître. Il me suffit d'un téléphone et boum, si ça marche, je commence à me faire connaître et je fais du business avec. J'étais à une conférence aux États-Unis il n'y avait pas longtemps où il y avait une personne qui expliquait, qu'il y a 4 types de créateurs de contenu. Créateur niveau 1, il gagne des revenus grâce aux plateformes. Créateur niveau 2, il met en place des collaborations commerciales avec les marques. Niveau 3, il monte un business. Et niveau 4, en fait, il monte une tonne de business qui ont des synergies entre eux. Tu vois. C'est vers ça qu'il faut tendre. Mais tous les créateurs et entrepreneurs en fait, peuvent appliquer ce même schéma. Quoi.
Virgile, tu vas être, évidemment, j'imagine que tu es complètement d'accord avec Jokariz. Et aussi dans le sens où tu dis les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité pour développer son activité, pour se faire connaître.
Totalement. Bah, déjà, tu n'as pas forcément besoin d'argent pour te lancer. On peut voir maintenant que tu demandes à quelqu'un dans la rue s'il a déjà fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vont venir te répondre oui. Et c'est vrai que si tu veux démarrer quelque chose en mettant en avant quelque chose, bah, c'est la meilleure chose à faire. Les réseaux sociaux, c'est formidable pour ça. Et oui, comme il l'a expliqué Valran, le fait que ce soit maintenant transformé, avant c'était pour discuter avec ses amis comme Facebook et tout l'avait fait. Et maintenant, les plateformes comme TikTok, Insta, où tu peux partager quelque chose, partager tes passions, mettre en avant ton business, c'est formidable.
Mais c'est vrai qu'on a tous l'habitude maintenant de communiquer hyper facilement en vidéo. Est-ce que parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent surtout pas s'y mettre, est-ce qu'ils font une erreur? Est-ce que c'est passé à côté vraiment du développement de leur activité?
Moi, un truc que j'ai vite accepté dans mes contenus, et je pense que ça en décomplexera beaucoup qui nous écoutent, c'est qu'en fait, quand tu fais une vidéo sur un sujet, quel qu'il soit, tu veux parler de médecine, de cuisine, de ce que tu veux, l'algorithme va trouver quelqu'un de plus expert que toi. Donc en fait, décomplexe-toi tout de suite et adopte ta position de non-sachant, tu vois, de je découvre, moi j'ai testé ça ou quoi. Parce que de toute manière, dans les viewers, dans les commentaires, il y aura des gens plus experts que toi. Décomplexe-toi là-dessus, tu peux parler en humain un peu de ce que tu veux. Et je pense que c'est ça qui a fait l'essor des créateurs de contenu, c'est justement que ce sont des personnes qui ne sont pas des experts, ce sont des humains. Les gens font plus confiance un humain que un expert qui est payé par on sait pas qui. Et moi d'ailleurs, à titre perso, c'est ça qui m'a attiré dans la créateur économie. C'est je venais d'un monde corporate où tout le monde se bullshit un peu dans tous les sens, où tout le monde sert un peu ses intérêts. Et je vois des créateurs de contenu qui émergent, qui font des millions de vues parce que justement il y a ce côté humain. Ils font des erreurs, mais on sait pourquoi ils les font et ils sont beaucoup plus attachants.
Ouais, en fait. C'est build in public avec beaucoup de transparence. Est-ce que Valran, au sein du surligneur, du coup, il y a des créateurs qui au début s'étaient un peu lancés comme ça par hasard et qui du coup explosent et ont besoin d'une agence pour être accompagnés? Et ça peut être vraiment une découverte, une révélation.
Il va y avoir les choses à deux niveaux. Il va y avoir les personnes qui ont eu un business extrêmement développé et qui vont du coup être capables de mettre des ressources chez nous pour pouvoir réussir à développer leur image. C'est ce qu'on a fait avec un tas d'entrepreneurs, Harold Parizeau de Chinese Business Club, Frédéric Timbert, Timbert Productions, ce genre d'entrepreneurs. Et il va y avoir de l'autre côté des personnes qui ont réussi à créer une notoriété par une émission de télé, par une activité qu'ils avaient menée et qui veulent réussir à, on va dire, être plus technique, être plus pointu, être plus automatisé, on va dire, cette visibilité et réussir à en créer des opportunités. Et là, nous, on va s'occuper de personnalités comme Kelly Massol, Blaise Matuidi, Sam Zira, pour réussir en fait à institutionnaliser leur image. Je pense surtout que les gens ne mesurent pas qu'on peut réussir à percer sur n'importe quel sujet. La seule question qu'on va se poser, c'est la créativité. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent faire du corporate au chiant sur les réseaux sociaux. Regardez mon entreprise comme c'est la meilleure et comme c'est la plus intéressante. Tout le monde s'en fout. Alors qu'à l'inverse, on dit, regardez dans mon industrie, dans mon domaine, à quel point ça c'est intéressant, à quel point ça personne ne sait.
C'est les coulisses.
Exactement, et en fait c'est hyper important de comprendre ça parce que la plus grosse barrière à l'entrée, pas forcément pour se lancer mais pour réussir à percer, c'est qu'en fait on a envie d'être lisse, on a envie d'être parfait, on a envie d'être propre sous tout rapport. Et ce que disait Jokariz, il a complètement raison, c'est que en fait c'est pas du tout le jeu. Le jeu c'est au contraire de dire moi je suis comme ça, je suis imparfait mais je fais de mon mieux et je vous documente ce que j'apprends et du coup ça va attirer les gens naturellement.
Et c'est là
parce
que ça
qu'on
marche.
Va se projeter en fait.
Et ça me fait penser au podcast des indépendants parce qu'on m'a souvent dit montre-nous un peu les coulisses. Elle est c'est très bien produit, c'est très beau, etc. Montre-nous un peu les coulisses, c'est ce qu'il y a derrière, etc.
Pour être en complément de ce qu'il dit, c'est que maintenant, on n'achète plus des produits avec, alors si c'est une grosse marque, ok, mais qui est merveilleux, qui fait tant de capacités. On achète la personne qui va être derrière avec l'humanité, tu vois. On achète maintenant l'humain. Et nous, on le voit à l'agence, on a des clients qui viennent, non pas parce que le budget est moins cher ou plus cher, mais parce qu'en fait, je véhicule à travers toute l'équipe un message qui est humain, qui est je suis proche de vous, qui est j'ai compris et j'ai une expertise là-dessus. Et ça, ils t'achètent pour ça. Les réseaux sociaux est vraiment cet outil qui va permettre de diffuser à travers différents canaux. En plus, on en a plein. Tu vois, c'est pas comme si on en avait qu'un seul. En fait, ils sont tous différents entre LinkedIn et Insta ou LinkedIn et TikTok.
C'est complémentaire. Virgile, est-ce que tu as l'impression que ceux qui achètent tes vêtements t'achètent un peu finalement?
Quand je mets par exemple en vente un article de ma marque, Je dis pas, tenez, il y a cette veste, elle est jolie. Je raconte tout ce qui s'est passé derrière, toutes les galères que j'ai eues, comment ça s'est passé, la mauvaise production, l'usine qu'on fait n'importe quoi. Et c'est ça qu'ils aiment, ils voient que je me bouge, quoi. Ça fait 6 mois que je bosse dessus, je fais des courts-métrages, je fais des trucs que j'avais jamais fait avant. Et c'est ça qui kiffe aussi, ils se disent, bon, ok, allez, je vais les soutenir. Et en plus, la veste, elle est jolie.
C'est jouer quand même des galères, faut être hyper transparent.
Mais là-dessus, il y a une histoire qui était complètement dingue. Je crois, peut-être que je me trompe sur le créateur, mais je crois que c'était Louis San comme créateur, mais c'est peut-être un autre créateur qui avait monté une marque de sacs à dos et l'usine avait fait n'importe quoi sur une centaine de sacs en se trompant de mots dans la marque. Et il l'a dit en toute transparence dans son audience en disant putain, mais je trouve avoir un problème avec l'usine et tout. Est-ce que vous les voulez du coup, vu que c'est pas le bon nom de la marque et tout? Il a vendu les 100 plus rapidement qu'il aurait vendu les 100 originaux de sa propre marque. Parce que l'histoire rendait tout ça culte, intéressant, ça crée de l'aspérité. Ça crée du relief. Quand on parle de lisse, ça s'oppose à avoir du relief, à avoir une histoire racontée. Souvent, on m'identifie moi à titre personnel comme un mec parfois un peu sulfureux, un peu offensif, parce que je porte un discours ambitieux sur ce que je veux faire avec mon groupe Le Crayon. La réalité, c'est que c'est cette exact reproche entre guillemets d'être un peu offensif qui crée aussi l'intérêt et l'adhésion de beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce message d'ambition.
Oui, alors, toute proportion gardée, parce qu'il faudrait pas penser non plus qu'il faut avoir une personnalité comme toi ou comme d'autres pour faire du contenu, tu vois, avec cette assurance, cette aisance, cette affirmation. C'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, Virgile, tu le dis très bien, tu dis moi au début j'avais peur et j'y suis allé, j'ai fait du contenu et il suffit d'y aller et tout le monde est capable de le faire finalement.
Ce que disent Valran et Marc, ils ont plutôt raison. Après, je pense que sur les réseaux, faut faire attention à de quelle manière on arrive sur les réseaux. Si au début c'est pour directement tout de suite gagner de l'argent en se disant qu'ils vont devenir millionnaires au bout de 3 vidéos, tu vois, c'est pas du tout la bonne approche. Maintenant aussi, il y a énormément de gens qui font des vidéos, il y a le hook qui est pris en compte, il y a le format de vidéo qui est pris en compte, il y a les b-rolls, enfin il y a plein de choses.
Il y a une compète là sur le...
La compétition est énorme. Ouais. Il y a un penseur qui a écrit là-dessus, tu vois, qui s'appelle Yves Citon, et qui compare cette créateur économie. Il me dit la créateur économie, en fait ça existe depuis très longtemps, c'est, tu vois, dans l'industrie culturelle, le théâtre, le cinéma. Une économie classique, elle est caractérisée par une économie où il y a trop peu d'offres par rapport à la demande, et c'est ça qui détermine le prix. Dans la créateur économie, ou dans le théâtre, ou dans les spectacles, c'est exactement l'inverse. Il y a trop d'offres, il y a une abondance de l'offre, et la demande, c'est quoi? C'est ton temps d'attention. Attention, est limité. Tu peux pas regarder toutes les vidéos qui sont sur YouTube, c'est impossible. Voir tous les posts LinkedIn et tout ça. Voilà, il y a une abondance d'offres par rapport à la demande, et ce qui fait, comme tu l'as dit, que du coup, la compétition est extrêmement rude sur les accroches, sur les hooks et tout ça, et c'est assez dur. Pour rassurer les gens, j'aimerais parler d'une tendance qui, pour moi, est fondamentale dans la créateur économie de ces 5 dernières années. Il y a 5 ans, la majorité des revenus, elle venait des plateformes. Et donc, du coup, il fallait être un énorme créateur mainstream. Et donc, il n'y avait que des créateurs lifestyle, divertissement, jeux vidéo. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Tu le disais au début, il y a 300 000 créateurs de contenu. Dans ces 300 000, la moitié, 150 000, sont des nano-créateurs, c'est-à-dire entre 1 000 et 10 000. Et pourquoi est-ce qu'on prend en compte ces créateurs entre 1 000 et 10 000? Parce que eux pèsent 1,5 milliard. Et pourquoi ils pèsent 1,5 milliard? Parce que, en fait, maintenant, la majeure partie des revenus vient des collaborations commerciales. Et donc, du coup, voilà, on peut être sur une niche et très bien gagner sa vie. Je te donne un exemple très concret. Moi, je bosse beaucoup avec un média, tu vois, qui s'appelle Major Prépa. Leur client, c'est quoi? C'est les écoles de commerce. La lifetime value de quelqu'un qui fait une école de commerce, c'est 80 000 euros, 20 000 euros par an pendant 4 ans. Bon, bah, eux, il y a un ROI très réel de payer un média pour faire des vidéos, ouais, pour présenter leur école.
On peut se nicher effectivement sur des thématiques. On n'a pas besoin de se dire il faut faire des centaines ou des millions de vues.
Ce que dit Jocariz est ultra juste, et c'est aussi vrai pour la partie plutôt entrepreneur qui voudrait se lancer dans la création de contenu pour valoriser ses offres de produits et de services. Nous, on a plusieurs clients, parce que sur le soignant, il y a toute une partie LinkedIn, on a plusieurs clients sur LinkedIn qui ont 5, 10, 15 000 abonnés avec lesquels on travaille depuis 6 mois, 12 mois. Donc on pourrait se dire, en 12 mois de prestations avec le surligneur, on a gagné que 10 000 abonnés, c'est quand même pas non plus renversant.
Ouais.
Oui, mais en fait, ils ont fait 300 000 euros de chiffre d'affaires grâce à ça.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, il suffit d'un poste, de deux postes, de 5 postes qui ont été vus par les bonnes personnes, qui ont déclenché un « Ah, c'est intéressant ce que tu racontes, est-ce qu'on se fait un call ?» On signe un contrat, 2 contrats, 10 contrats, rentable, ultra rentable. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que oui, le temps d'attention est limité. En revanche, j'apprends le plus gros, mais Squeezie, par exemple, il va prendre 10 millions de vues sur 40 minutes d'un qui est l'imposteur, par exemple. Un 10 000 vues de post LinkedIn peut être totalement game changer pour une boîte.
Ouais, si on arrive à le transformer effectivement en business derrière.
Exactement. Mais sauf qu'en fait, tu te transformes relativement vite en business derrière si tu réussis à construire un bon funnel de contenu qui est grand 1, attirer l'attention, c'est-à-dire réussir à mettre un petit pas de côté, une information originale, quelque chose. Grand 2, pourquoi toi t'es légitime sur ce sujet. Grand 3, si on veut aller plus loin, comment on peut aller plus loin? Et je dis pas ça pour mettre en avant mon agence, je dis ça même dans le sens où les gens qui voudraient se lancer sans même être accompagnés, faut comprendre que on perd très peu, mais en revanche les gains sont déplafonnés.
Ouais, c'est
en
fait. Ça, souvent on peut avoir peur, etc. Mais et les contenus qu'on fait, Déborah, toi tes contenus ils sont en lien direct avec ton activité.
Direct, et pour rebondir juste sur tous les deux, on a nous un constat, parce qu'on voit plein d'entrepreneurs qui sont finalement des créateurs et qui se disent je ne veux pas faire des millions de vues parce que je ne veux pas être influenceur. Tu vois, on est là en 2025, si on les écoute plus tard aujourd'hui.
Ouais, les gens, c'est vrai, disent moi j'ai pas envie d'être influenceur.
Et en fait, nous on a accompagné une cliente avocate, elle se reconnaîtra donc sur sa chaîne. Et donc en fait, les extraits de podcast, on les a mis de partout. C'est-à-dire, elle ne va pas gérer TikTok, mais on l'a quand même mis. Elle a récupéré des leads à travers des contenus qui ont été publiés. Et pourtant, elle a fait à peine 2000 vues. Mais ça lui a apporté 2 leads. Donc finalement, elle a presque doublé en une prestation. Elle s'en fiche d'être youtubeuse, avoir 50 000 abonnés, etc. Donc tu vois, il y a aussi cette comparaison aujourd'hui de attention, il n'y a pas aussi que la visibilité, il n'y a pas que la vue, parce qu'il y a aussi l'envers du décor. Et qu'est-ce que tu veux finalement ?
Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que en fait, tu peux un peu choisir ton public. Si par exemple, tu es en train de mettre en avant ton activité, tes businessmen, si tu prends par exemple 10 000 abonnés, mais c'est 10 000 abonnés qui peuvent en valoir 1 million sur la chaîne d'Inoxtag. Inoxtag, on l'aime pour son apparence, on l'aime parce que c'est lui, on l'aime pas par exemple par rapport à ses sujets de vidéos. Et du coup, par exemple, il a des millions d'abonnés et c'est pas forcément des gens nichés qui vont s'intéresser à une pub qu'il va faire sur ses vidéos. Alors que si tu te lances sur les réseaux en mettant en avant que ton activité, peut-être que tu vas prendre que 1 000-2 000 abonnés, mais ça va être 1 000-2 000 abonnés très importants et que tu vas pouvoir convertir si tu veux vendre quelque chose ou mettre quelque chose en avant, tu vois.
Moi, j'ai entendu parler d'une activité, je sais pas si vous connaissez, c'est le growth operating. Ça consiste à finalement trouver des collabs, trouver des marques pour soutenir justement ces créateurs très nichés qui auraient du mal à trouver des financements quand ils veulent vivre de ça.
Il faut laisser aussi le marché faire son travail. La réalité, c'est que beaucoup de gens fantasment le fait d'être créateur de contenu en pensant que c'est la belle vie, en pensant qu'en fait c'est un peu les nouveaux footballeurs sans avoir à fournir des efforts sportifs. Mais là, je trouve que Virgile est un excellent modèle par rapport à ça parce qu'il a complètement percé sur les réseaux sociaux et avec beaucoup de succès, et il n'est pas au bord d'une piscine à l'autre bout du monde avec 5 villas à Miami comme des rappeurs. Enfin, je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui vendent ce lifestyle là pour vendre des formations, ce genre de choses, parfois ça modifie complètement les réalités. Mais pour si on veut vraiment devenir créateur de contenu, vraiment avoir ce côté célébrité, ce côté collab, ce côté vraiment la vie de créateur que vit un jocariste par exemple, en fait on se rend pas compte que c'est un plan de 10 ans, c'est un plan de 10 ans, c'est pas un plan de 3 mois. Et ça, le problème, c'est que les gens ils zappent vite d'une activité à l'autre, sujet à l'autre. Et en fait, si jamais tu te dis que c'est un plan de 10 ans, tout d'un coup, tu réfléchis complètement différemment les sujets que tu veux aborder, la manière dont tu veux travailler, la manière dont tu fais les choses, parce que du coup, tu n'es plus en train de te dire « je vais faire une réussite rapide » qui sont illusoires pour un cas comme ça. Il y a 1 million de gens pour qui ça a pris 10 ans, en fait.
Et là, on parle des créateurs qui décident d'en vivre. Et on ne parle pas des créateurs qui sont là pour porter leur activité, notamment sur LinkedIn. Vous détestez le terme influenceur.
Toutes les personnes qui font le métier que je fais détestent qu'on les appelle influenceurs. Depuis que Booba est passé par là avec le scandale Magali Berda et tout ça, le mot influenceur est associé à influx voleur. On veut se faire appeler créateur de contenu et insister sur ce qu'on crée. Et
ce qui est moche comme terme, si tu m'as...
ce qui est moche, ce qui est long, mais on insiste sur le travail qu'on fait plus que sur la manière dont on gagne notre argent, quoi, en fait, quoi.
Et puis il y a aussi une question de format, parce qu'on peut écrire des contenus, on peut faire des vidéos, on peut publier des photos. Sur Instagram, c'est full vidéo maintenant, beaucoup plus
avec carrousel aussi.
La photo,
hein.
Sur LinkedIn, enfin tout fonctionne, le carrousel, etc. Déborah,
tu vois, LinkedIn, il y a un vrai sujet, parce que nous, on a eu des clients avec des impressions qui ont passé le million, et puis l'algorithme a changé. Alors, encore une fois, on se replonge dans le jour du tournage, hein, parce que ça se trouve, dans 6 mois, ça va encore changer. Finalement, on est presque découragé d'aller sur les plateformes et on ne publie plus. Et tu vois, j'aime bien ce que tu as dit sur les 10 ans, c'est que nous, on voit une vision stratégique long terme. C'est comme la santé, c'est comme un sportif comme Inoxtag, il n'a pas dit du jour au lendemain, tiens, dans une semaine, je vais aller gravir l'Everest. Tu vois. Il s'est dit, tiens, j'ai un projet, et ben les réseaux ou les agences comme la tienne ou d'autres qui existent, c'est ok, sur long terme, on a une visée à 1 an, tu vas pas percer non plus, et ça peut marcher, tant mieux, mais on a cette vision long terme. Et pour revenir un peu sur le format vidéo, il y a ce côté réassurance qu'on n'avait pas forcément avant, et qui peut être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que oui, t'as un jeune créateur qui est pas forcément à l'aise ou qui est jeune et qui a envie de transmettre, et ben ok, tu l'aimes pas, t'aimes pas sa tronche, tu suis pas, mais au contraire, tu peux t'abonner. Et c'est assez facile d'accéder à ça, quoi.
Est-ce que le contenu permet aussi une certaine durabilité dans l'esprit des gens? C'est-à-dire que ça prend du temps pour s'installer dans l'esprit des gens, mais est-ce qu'on consolide quelque chose de beaucoup plus fort que de la publicité classique avec le contenu?
Moi, je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça qui fait que c'est plus puissant de la publicité classique. Le premier, c'est la découverte découverte organique, soit par l'algorithme, soit par le choix de cliquer sur une vidéo YouTube ou autre. On va soi-même en fait faire l'action de vouloir consommer une vidéo ou un post LinkedIn. On est consentant entre guillemets dans la consommation du contenu.
On est presque demandeur.
Parce que c'est exactement.
Quand on voit
exactement
le côté maintenant, quand on voit sponsorisé. Bah c'est vrai qu'on a tendance à fuir ce truc-là.
Alors même que parfois, il y a des contenus sponsor. Très bien, mais je suis d'accord qu'il y a vraiment ce truc, cette découverte organique qui est très puissante. Et la deuxième, c'est de passer le mur du son. Je pense que Inoxtag a fait une démonstration par rapport à ça avec Kaizen, parce que c'est des trucs que tout le monde va connaître, mais qui est de comment dans mon sujet, dans mon industrie, dans mon domaine, au lieu de se dire je vais faire une vidéo tous les jours ou un post tous les jours, comment je vais réussir à créer des moments, vidéo ou écrit, qui vont être mémorables pour les gens. Je le dis parce que très récemment, j'ai fait un post LinkedIn qui a très bien marché sur un des concepts que moi je développe qui s'appelle la médialette compagnie, c'est-à-dire le fait de créer une entreprise sur la base de la construction d'une audience ou d'un média, et c'est un poste qui a très très bien marché. J'ai eu une dizaine de leads, de sujets, enfin de gens qui voulaient discuter avec moi spécifiquement sur ce sujet-là, et je sais que ce sujet-là, on m'en parle après derrière, parce que ça a marqué les gens. Alors que d'autres contenus que j'ai pu faire par ailleurs, les gens ils ont vu sur le moment, ils ont trouvé ça cool sur le moment, mais ils ont complètement zappé le lendemain.
Ouais, il faut être bon sur le contenu, et c'est intéressant l'expression, enfin le média, comment tu dis, le poste que
média led compagnie.
Parce qu'en fait, finalement, quand on veut créer une entreprise aujourd'hui, on pourrait presque commencer par créer du contenu.
Amen.
Et bah ensuite, on crée son entreprise.
Oui, il y en a qui pensent trop technique.
Valran connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais tu parles d'un post LinkedIn qui a influencé des gens. Il m'a influencé notamment. Nous, au moment où on a créé donc, notre boîte, la Paris Creator Week, j'avais déjà une communauté et ça m'a énormément aidé. J'ai embauché des gens en quelques jours en mettant un réel. Tu vois, j'ai mis un réel. Voilà, je fais un bootcamp avec mes trois associés. On embauche quelqu'un en marketing, en sales, en chef de projet. La semaine d'après, on avait notre bootcamp, on avait 6 personnes qui étaient là, il y en avait qui avaient démissionné de leur boulot au Luxembourg. Enfin, on se rend pas compte de l'influence qu'on peut avoir sur les gens. Donc, ce gars-là, aujourd'hui, il est dans ma boîte et c'est le meilleur sales de la boîte, tu vois.
T'as commencé à communiquer avant de concrétiser le projet sur le papier.
Ouais, j'ai communiqué dessus, il y a des gens qui me suivaient. En fait, une communauté, c'est très complexe, tu vois. Une communauté, c'est pas une personne. C'est dans la communauté, il y a des gens qui me suivent pour mon expérience chez Goldman Sachs, il y a des gens qui me suivaient parce que moi, je me suis fait connaître dans les jeux vidéo, et il y a des gens qui me suivent, le tout petit noyau, qui me suivent pour tout un peu whatever. Enfin, ce que tu disais, voilà, qui sont un peu attachés à la personnalité. Mais je pense que ça correspond à une petite partie de ma communauté. Donc voilà, il y en a qui voient que j'ai un nouveau projet, que j'avais ce projet justement de fédérer la créateur économie en France, parce qu'en France, on a la chance d'avoir, comme partout dans la culture française, une énorme diversité des profils, tu vois, des créateurs de contenu. Il y a des gens comme Major Mouvement dans la santé, il y a des gens comme Hugo Clément dans l'impact environnemental. Voilà, on est vraiment partout, mais par contre, on n'est pas fédéré. Donc j'avais ce projet de fédérer cette créateur économie en France, parce que je regardais ton dernier podcast là, qui était sur l'IA. Je pense que l'impact de l'IA sur la créateur économie, c'est que ça va casser la barrière de la langue et que dans les prochaines années, les créateurs vont s'exporter à l'international. Étape 1, on voulait fédérer la créateur économie. Étape 2, permettre à nos talents de s'exporter.
Ça va être fou, hein. Parce que si, effectivement, faire des vidéos, et c'est déjà presque le cas, avec l'IA, on va pouvoir couvrir le monde entier, quoi, avec son contenu.
Complètement, complètement. Alors, c'est pas encore aussi puissant qu'on pense que ça l'est. Nous, on avait la chance à notre événement d'avoir le numéro 2 de MrBeast qui était là. MrBeast, pour ceux qui le connaissent pas, plus gros YouTuber du monde avec 400 millions d'abonnés. Bon, les gens ont un peu le seum contre MrBeast. Ils disent oui, mais c'est parce qu'il est anglais, c'est facile d'avoir des abonnés. Non, sa première communauté, elle est espagnole. Sa deuxième, elle est indienne, mais tu vois, enfin indie, pas anglais.
Génial.
Et sa troisième seulement est anglophone. Et en fait, alors lui, c'est intéressant, il nous dit, l'IA, ça marche pas. Parce qu'en fait, traduire une vanne, tu vois, montrer une expression qui est très bien idiomatique, sûr, ouais. Trouver la bonne vanne dans la langue et ça. Donc il a des acteurs,
ouais.
Il a embauché des acteurs okay. Un peu dans chaque
tous les pays. Ouais, il a des doubleurs dans tous les pays.
Il y a des doubleurs.
Bon, là, on est à un step de créateur de contenu assez
non, possible. Oui, oui. Mais pour l'IA, est pas encore. On est pas. Enfin, je pense qu'on surestime pour le moment, mais ça va le faire. Tu vois, l'IA, il faut laisser le temps au temps. Ça va le faire. Et dans les prochaines années, on va s'exporter. MrBeast sera pas le seul à s'exporter comme ça partout quoi.
Et complètement, mais je pense que tout le monde ne s'exportera pas. Et je pense qu'on fantasme aussi un peu on a fantasmé beaucoup beaucoup de révolutions aussi. Et en fait elles prennent déjà toujours plus de temps qu'on pense. Les cryptos, on a un très bon exemple. Moi je crois beaucoup dans les cryptos, c'est pas le sujet du jour, mais ça prend du temps, vraiment du temps, mais c'est majeur, mais ça prend du temps. Ce sera pareil pour l'IA. Et aujourd'hui, est-ce que un Indien, on va regarder un qui veut être l'imposteur avec Alain Chabat,
c'est pas les
mêmes codes,
ouais.
Alain Chabat, ouais. L'Indien, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il y a plein de subtilités de mécanique où moi je crois beaucoup plus qu'un mi-code va être capable de s'exporter et d'avoir des très grosses audiences parce qu'il est sur un sujet technique et relativement universel, que le pur divertissement qui est très dépendant des guests, dont finalement un Indien, un Espagnol, un Sud-Africain, je crois qu'ils s'en tamponnent d'avoir un acteur de cinéma ou un rappeur français, en fait, ça n'a aucun impact sur lui.
Tu dois t'exporter, Virgil, en plusieurs langues.
Pour le moment, ça me paraît encore un peu flou, mais ils ont raison par rapport au fait que l'IA, c'est abusé. Même moi, pour mes vidéos, pour m'aider à trouver mes hooks et tout, je mets des... Ça va à une vitesse, même moi, je ne m'en rends pas compte.
Avec l'IA, c'est l'IA qui te propose des hooks.
Ouais, avec l'IA, bah, je lui donne mes idées. Il m'aide des fois pour les écritures de mes vidéos, à mieux les structurer et tout. Et en vrai, bah, c'est que bénéfique, tu vois, il n'y a rien de mal à faire ça. Et c'est vraiment un outil top. Et je pense que oui, pour la création.
L'IA est bien pour l'aspect technique, ça reste un assistant. Et en fait, dans tes vidéos, c'est toi qui vas amener ton âme et tu vois, l'essence dans tes exact. Vidéos. Sinon, en fait, si c'est robotisé, bah, on va se dire, bah, tiens, si on peut le décupler, finalement, on n'a pas envie d'aller rencontrer le petit gars derrière qui a une émotion qui se crée derrière. Donc ça, c'est un super assistant. Mais tu vois, il y a des générations qui en ont vraiment peur de l'IA, qui disent, mais en fait, ça va remplacer des jobs. Non, avant, il n'y avait pas de CM. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Ouais. Bah finalement, tu vois, on n'est pas mort.
Hein. Et techniquement, Virgile, est-ce que c'est compliqué de produire les vidéos? Parce qu'il y a aussi ça, c'est le temps qu'on y consacre. Comment tu t'y prends? T'as quoi? T'as un iPhone
Ouais, j'ai un iPhone. Bah, j'ai investi dans une caméra quand même maintenant, parce que je trouve ça top. Et j'adore les photos, mais bref, c'est pas le sujet. J'écris ma vidéo avant. Bon, j'ai une petite idée qui me vient. Je me pose 15 minutes en extérieur avec mes chats. J'ai un papier. J'utilise toujours le papier. Hein. Le papier. Je note quelques idées de vidéos qui me viennent dans ma tête. Je commence à les peaufiner. J'écris. Ouais. Du coup, j'utilise aussi ChatGPT pour lui demander ce qu'il en pense, s'il a des points un peu à améliorer. Je refais un texte complet. Ensuite, je tourne ma vidéo. Ça me prend.
Ça te prend combien de temps?
En vrai, ça me prend 15-20 minutes. Et dessus, je récupère une minute que je poste sur TikTok. Et pour le montage. En fonction des vidéos, quand c'est du vlog, c'est un peu moi qui va construire l'histoire, tu vois. Mmh. Vu que c'est moi qui ai envie de raconter quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, je vlog l'interview et c'est moi qui vais le faire. Et sinon, pour mes formats FaceTime, j'ai une monteuse qui s'occupe de tout ça.
Mais on voit que c'est un taf à part entière maintenant quand on est entrepreneur. Jokariz.
Ouais, ouais, il y a une vraie professionnalisation du métier. Les gens ont peut-être du mal à s'en rendre compte, mais effectivement, on va bosser avec un graphiste, avec un agent qui va gérer toute la partie développement commercial, avec un monteur et parfois même un chef monteur. Voilà, on fait bosser en fait tout un tas de personnes, quoi. Ouais. Nous, sur notre événement, on a peut-être fait bosser 150 personnes, tu vois, en tout. Et donc.
Et sur ta chaîne YouTube?
On est 5-6. Tu vois, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de freelance. Là, on est dans le podcast des indépendants, il y a plein en fait, de métiers connexes. Autour de ça, je parlais de graphiste, monteur, il y a beaucoup, j'en parlais un peu de logiciel, hein, de SaaS qui se monte autour de cet écosystème. Donc voilà, c'est un métier où il y a plein d'indépendants. Ouais.
J'entendais une vidéo dans laquelle quelqu'un disait, j'ai oublié son nom, je m'excuse, bah demain on sera de toute façon tous créateurs. C'est inévitable. Dans 10 ans, on fera tous du contenu autour de soi. C'est un peu, c'est le futur, quoi, tout simplement. Et ça nous concernera tous. Il y a quand même quelque chose qui est un peu injuste. C'est que si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, si vraiment vous n'aimez pas ça, comment vous ferez demain pour développer un business?
Bah, y a plein de manières. Ça, pour le coup, moi, je pense que c'est des slogans qui sont très radicaux et donc ça marche bien parce que ça excite notre côté un peu...
Clivant.
Ouais, exactement, c'est clivant. Moi, je suis beaucoup plus nuancé là-dessus. Alors, peut-être que mon avis, du coup, est boring de ce point de vue-là, mais moi, je suis pas sûr de ça. Alors, déjà, on peut très bien créer du contenu sans montrer sa tête ou même montrer sa voix. Ça me paraît quand même important de le rappeler. Il y a un tas de marques, de créateurs, de sujets. Je pense à un très gros youtubeur, par exemple, qui s'appelait Ego. En fait, il ne montre pas sa tête, il ne montre pas son visage. Donc, ça change. Il peut très bien être mal à l'aise avec de lui face à la caméra. Ça ne change rien à la qualité de sa création. Et après, sur le côté de tout le monde va devenir créateur, moi, je ne suis pas convaincu de ça. En fait, comme les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle une méta-industrie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une industrie qui permet de rentrer dans plein d'autres industries. On est convaincu que du coup, tout le monde a intérêt à y aller. Mais il y a plein de sujets qui n'ont pas intérêt à y aller. Si jamais je suis une marque de luxe, je peux avoir au contraire la volonté de se dire c'est que du bouche à oreille, on n'existe nulle part sur internet. Voilà. Par exemple, il peut y avoir toute cette économie là.
C'est pas indispensable, contrairement à ce que certains disent.
Toutes les industries qui ne veulent pas se montrer au grand public, et il y en a un sacré paquet.
Et pour les indépendants, pour ceux qui veulent porter leur activité, on a quand même l'impression aujourd'hui, on parle beaucoup de personal branding, et on a l'impression aujourd'hui que ça devient quelque chose d'absolument capital. Moi je le vois, je suis chef d'entreprise, et c'est un sujet qui revient souvent chez vous et la vidéo, où il est question de créer du contenu, on le fait, c'est vrai que ça a des résultats, ne serait-ce que pour se rappeler à ses propres clients qui te suivent sur LinkedIn avec de la vidéo où tout de suite ça apporte un côté humain, mais c'est vrai que ça revient constamment et on a l'impression que c'est un indispensable en fait.
Je suis d'accord avec Valran que ça concerne pas 100% des métiers. Effectivement, il y a des métiers où la rareté en fait est gage de qualité, mais voilà, pour des indépendants, je pense que c'est important. J'avais Guillaume Moubèche sur mon podcast, voilà, qui est un gros entrepreneur français et qui m'expliquait une vente, elle se fait en fait, on multiplie deux variables qui valent 0 ou 1, la confiance et est-ce que c'est le bon moment pour ton client d'acheter. Donc en fait, il faut avoir une confiance qui est toujours égale à 1, c'est ce dont tu parlais. Il faut toujours être top of mind de ton client et le moment où c'est le bon moment pour lui pour acheter, bah du coup, cette variable va passer à 1 et l'équation et la vente va se faire, tu vois. La création de contenu, c'est une manière de rester toujours top of mind de tes clients et au moment où ils ont un problème, ils disent « Ah mais ça, c'est vrai que Ludo, il le fait, ça, attends, je passe un texto, tu vois. » Je suis d'accord avec Valran et je suis d'accord que tout le monde ne sera pas créateur de contenu, je suis pas du tout d'accord, mais je pense qu'une grande majorité, en particulier les indépendants, ont intérêt, tu vois, les artistes, les artisans, et ça, plein de métiers de petits métiers ont intérêt à utiliser cette opportunité d'avoir son propre média.
On n'a pas parlé des plateformes, c'est quand même un sujet important puisqu'il y a différentes plateformes. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur un sujet bien précis, c'est sur les évolutions de l'algorithme de LinkedIn. Alors Virgin, ça te concerne moins.
Ouais, moi, je connais pas très LinkedIn.
Tu devrais, ça marcherait bien pour toi. En plus,
ouais, c'est vrai que c'est top. Ouais, je vais y mettre
un peu cliché LinkedIn, donc tu auras peut-être quelques haters, mais franchement, tu devrais y aller. Hein.
Ouais, je pense que tu aurais une belle visibilité. Cette évolution constante de l'algorithme, je la comprends pas personnellement.
Moi en tant qu'ancien gamer, tu vois, sur les jeux vidéo, ça me fait bien rire parce que c'est exactement comme ça que ça marche, un jeu vidéo. Toutes les deux semaines, tu as un nouveau patch, tu vois, qui sort, et là, il faut arbitrer le nouveau patch. Faut se dire, tu vois, c'est comme si tu jouais aux échecs, pour expliquer concrètement, et que toutes les deux semaines, on dit, ah, attends, la tour, elle est pas assez forte, on va rendre la tour un peu plus forte.
Ça te fait bien rire que nous, on se dise, ah, c'est injuste, ça
change tout le temps. Non, ça me fait bien rire dans le sens où ça m'amuse, j'adore ces changements d'algorithme. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. On me dit, attends, le fou est devenu un peu trop fort, on baisse le fou, la tour, ça devient n'importe quoi. Donc, il y a des nouvelles stratégies autour de la tour, tu mets ton pion au bout, tu prends des tours, enfin, tu vois. Et donc, LinkedIn, c'est ça, ça change tout le temps. Là, au début, quand ils ont release le format short, tu vois, pour faire de la compétition à TikTok, Instagram,
c'est ce que je disais tout à l'heure.
Ça faisait des vues, c'était n'importe quoi. Tu faisais des 500 000 vues sur des shorts. Là, ça a été complètement nerf, enfin, ça a été complètement, pardon, baissé comme stratégie. Là, je vous donne la petite stratégie qui marche bien en ce moment, c'est les vidéos au format horizontal. Les vidéos verticales, en fait, ça passe dans une matrice où c'est des shorts, mais il y a peu d'users de ça sur LinkedIn, tu vois. Alors que les vidéos au format horizontal, bah, qu'est-ce qu'ils regardent LinkedIn ? Ils regardent l'average watch time, comme toutes les plateformes. Donc forcément, sur une vidéo horizontale, bah, t'as plus de watch time que sur un post qui est un peu chiant. Donc du coup, tu mets une vidéo au format horizontal, ça passe pas dans la matrice des shorts. Ouais. Tu fais un watch time qui est hallucinant, tu fais des vues qui sont hallucinantes. Voilà.
Je le teste sur le podcast des indépendants, je mets des extraits 16/9 classiques qui marchent beaucoup mieux que les extraits en portrait Déborah.
Le problème, c'est que tu vois, moi, j'accompagne des entrepreneurs donc, qui sont pas vraiment des créateurs, enfin, je veux dire qu'ils vivent pas de ça. Eux, ils viennent me voir et ils me disent « Ouais, mais du coup, tu nous as vendu ça, tu nous as dit ça, ça a changé, donc nous, on s'essouffle. » On revient, tu vois, sur la boucle de « Ok, c'est du long terme, etc. » Donc, il faut argumenter, il faut leur expliquer. Donc, heureusement, on réadapte le format. Moi, je suis comme toi. Je viens en plus d'une enfance où je fais de la compétition en échec. Donc, forcément, ça me parle très bien. Et pareil dans les gaming. Mais du coup, moi, ça me challenge. Mais la plupart des clients, des collaborateurs, eux, voient de l'autre côté en disant « Tiens, c'est épuisant, ça change tout le temps, etc. » Sauf que, en fait, la vie, c'est ça. Puis ta vie ne change tout le temps. Tu vois,
c'est ça,
c'est ça le jeu des réseaux sociaux.
Comme la fiscalité française. Bien sûr. Il y a toujours un
bon.
On peut parler de la réglementation et
si on peut parler de patch, on serait bien. Sur LinkedIn, pour le coup, moi, je suis d'accord avec Zocari sur le fait que c'est toujours amusant d'avoir des rééquilibrages d'algorithmes parce que ça permet d'être toujours resté un peu en vie, toujours rester un peu sharp et tout. Moi, j'aime bien ça. En revanche, je pense surtout que le problème, c'est que trop de gens voient la création de contenu, surtout quand ils commencent ou quand ils y sont pas familiers, comme une espèce de manière de craquer un truc, de faire un hack, de réussir à trouver une faille. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de réussir à apporter de la valeur à une audience sur un sujet précis et de réussir à adapter le format en fonction de la période. Mais finalement, le format, il est relativement facile à adapter quand on sait ce qu'on raconte. Tout le monde s'est précipité sur la vidéo. Nous, avec nos clients, on a une cinquantaine de clients LinkedIn avec le surligneur. On en a fait zéro. On a une cliente qui voulait faire de la vidéo. On en a fait pour elle et tout, mais on ne l'a pas poussé. On a recommandé ça à zéro de nos clients. Et je dis pas ça en mode, ah, on a eu raison, on a vu le truc avant. On était juste en mode, on attend de prouver que ça marche.
Là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, Valran, parce que c'est aussi de rappeler qu'on est sur le fond, on est sur la qualité, qu'on n'est pas là juste pour se montrer et qu'il faut être original, qu'il faut apporter quelque chose, que ce soit un moment divertissant ou alors de la valeur sur une expertise. Et donc c'est ça le jeu, il n'y a pas de hack particulier parce que tu arrives avec de la vidéo quoi.
Complètement, les hacks particuliers, pour reprendre un peu les métaphores de jeux vidéo, c'est comme un champignon ou une étoile dans Mario Kart. Ça t'aide un moment, mais si t'es pas un bon conducteur, tu vas terminer dernier. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout de se dire, si on enlevait les algorithmes de recommandation et que juste les gens ils consomment votre contenu parce qu'ils l'apprécient, donc ils iraient vous chercher. Est-ce qu'ils iraient toujours vous chercher? Et en fait, si votre réponse, elle est oui, bah, c'est bon. Dans ce cas-là, vous adaptez juste les bons formats. Après, tu adaptes les codes de la plateforme. Mais si jamais les gens, ils voudraient retrouver ton contenu, il n'y a aucun stress à avoir. Moi, je prends un exemple tout con. Je suis très fan du contenu de Léo Duff. Je trouve que c'est un excellent YouTuber. Si Léo Duff, il arrêtait d'être recommandé dans mon algorithme, j'irais toutes les semaines taper Léo Duff pour être certain qu'il n'a pas sorti une nouvelle vidéo. Si on a ça, il n'y a plus de sujet. Les hacks deviennent juste une manière de mettre un petit coup de boost à un moment, de profiter d'une opportunité.
Oui, il faut être un peu malin.
Mais il ne faut pas du tout être obsédé par les hacks. Je sais que c'est une grosse mentale entrepreneur, surtout sur LinkedIn.
C'est pas comme ça qu'on construit dans la durée. En tout cas, on entend bien que la création de contenu, ça concerne finalement tous les entrepreneurs. Maintenant, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour tout le monde. Il nous reste une minute pour finir cet épisode du podcast des indépendants. Un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, peut-être, Virgil. Je crois que tu voulais aussi promouvoir l'entrepreneuriat, finalement. Dire, c'est génial d'entreprendre, surtout à 17 ans. Il faut le faire tôt.
Ouais, bah, faut pas forcément tout le temps se dire que oui, tu dois avoir une scolarité classique, tu dois aller jusqu'au bac, tu dois faire des études et tout. En vrai, moi, j'ai juste eu envie de faire ça. Ma mère, au début, elle n'était pas d'accord. Mon frère, il a fait Paris, Dubaï en stop. Du coup, ma mère, elle est devenue beaucoup plus flexible. Je lui ai dit, je veux faire de l'entrepreneuriat. Elle m'a dit, OK, va trouver une entreprise, va travailler dedans. Enfin, après, fais ce que tu veux, tu vois.
Et le contenu t'a amené.
Ouais, et là, moi, je suis nourri, blanchi, logé, tu vois. J'ai aucun frais et j'ai rien à perdre, tu vois. J'ai moins de 18 ans, peu importe ce que je tente, faites-vous kiffer, quoi. Il y a vraiment rien à perdre, c'est que du bonus, que du bonheur, quoi.
Le message est bien passé.
Moi, le petit mot que je dirais, c'est que moi, ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai tout abandonné pour me lancer dans cette industrie complètement fascinante. Et voilà, j'encourage les auditeurs, tu vois, à faire de même. C'est une industrie qui est en croissance de 25% par an, il va y avoir plein d'emplois créés autour de ça. Et franchement, c'est absolument fascinant, j'ai aucun regret là-dessus. Donc voilà, lancez-vous, essayez, faites de l'A-B testing, comme on appelle ça dans le métier. Voilà, t'essayes, tu testes and learn et petit à petit vous allez vous faire votre place, vous allez comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Là, on parle beaucoup d'algorithmes, peut-être ça fait peur ce qu'on a dit.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas si compliqué. On est tous, voilà, encore une fois, il y a 3 ans et demi, je suis parti de vraiment zéro. Je faisais un métier qui avait absolument rien à voir avec ça.
Mais il faut être passionné.
Ouais, mais comme dans tout dans la vie, en fait, quand on est passionné par un sujet, on compte pas ses efforts et on devient bon sur ce sujet-là, quoi. Donc effectivement, faut que ça vous intéresse.
Valorant.
Moi, je dirais que les gens doivent surtout essayer de ne pas plaire aux gens, mais de se plaire à eux-mêmes déjà. Si on crée le contenu qu'on consommerait, normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres gens comme nous qui voudraient le consommer. Et je pense que c'est un bon point de départ pour beaucoup de gens qui peuvent avoir un frein en se disant « Ah, qu'est-ce que je vais poster ? Est-ce que je vais être ridicule ?» ou tout ce qui va avec. Est-ce que le contenu que vous créez, vous voudriez vous le consommer ? Et si oui, poussez, soyez patient.
Après, il ne faut pas non plus tomber trop dans le perfectionnisme parce qu'avec ce fonctionnement-là, on se dit « Ah oui, mais qu'est-ce que je pense de moi à l'image, etc. » Alors que je trouve que la création de contenu, c'est aussi accepter les imperfections. Déborah ?
Tu ne peux pas être faux, il faut être vrai. Et en fait, tes abonnés, ta communauté, que ce soit déjà 2 personnes, parce qu'une communauté commence finalement avec 2 personnes, et que ce soit 10 000, ils vont te suivre, ou elle va te suivre pour ça. Et c'est ce que tu disais, mon podcast est singulier, c'est-à-dire que chaque personne est différente, et tu vas les aimer pour leur singularité. Et le petit message sur une pionnière là-dedans sur 16 ans, c'est qu'il faut être patient, il faut construire, il ne faut pas se dire « Ah, je le fais 3 mois ». Toi, c'est ce que tu fais, tu dis « Je le fais pour le kiff », et je me dis « Bon, il y a des semaines, j'ai un peu moins envie, c'est pas grave, je tiens, la communauté va me faire des retours, et finalement, je vais changer mon planning ». Mais effectivement, il ne faut pas se lasser au bout de 3 mois, parce qu'en fait, pour avoir eu le recul de tous les réseaux sociaux, l'entrepreneur, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui est audacieux, qui a du courage et qui voit sur le long terme.
Merci beaucoup, merci à tous les 4 pour ce 12e épisode de la saison 3 du podcast des indépendants. J'espère qu'on vous aura donné peut-être envie de vous lancer, de créer, que ce soit en vidéo ou avec des photos, en tout cas de vous montrer pour porter votre activité. On l'a souvent dit hein, dans le podcast des indépendants, et puis aussi qu'on vous aura donné une autre image de la créateur économique qui est souvent vue comme un truc d'influenceur, alors que vous l'avez vu, c'est beaucoup plus que ça. Je vous rappelle qu'on se retrouve un mercredi sur 2 sur BFM Business. Enfin, la prochaine fois, ça sera le dernier épisode de la saison 3.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur 2. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.